Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Jacques-Yves Molima.
L'opposition parlementaire ne jure que par la déchéance du ministre de Pétentic, en plus de la suppression de la taxe RAM. Pour se faire le front commun pour le Congo, FCC a introduit hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale une motion de défiance contre le ministre Augustin Kibasa. 19 entreprises pétrolières du Haut-Katanga reprochées de contrebandes et de fraudes douanières. L'IGF a sollicité du ministre des Hydrocarbures le retrait temporaire de leur contrat de fourniture de produits pétroliers et la suspension des autorisations d'importation. Enfin, notre invité dans cette édition du journal est le professeur Jean Kassoua, chef du département de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et au CNPP. On le reçoit en marge de la célébration de la journée de la santé mentale commémorée le 10 octobre de chaque année. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le Front commun pour le Congo a introduit hier mardi au bureau de l'Assemblée nationale une motion de défiance contre le ministre des Pétentic, Augustin Kibasa, sur la question de la taxe RAM. L'opposition parlementaire ne jure que par la déchéance du ministre en plus de la suppression de la taxe RAM. Du côté de l'Union Sacrée, une réunion s'est tenue lundi dans la soirée à l'hôtel du fleuve Congo pour tenter de sauver le ministre Augustin Kibasa. Mais les députés se sont séparés en queue de poisson car la majorité d'entre eux s'oppose à toute idée de maintenir cette taxe. Michel Kifindangoy.
Après le dépôt de la motion de défiance du député Jean-Marie Boulambo, le FCC estime que cette initiative de contrôle parlementaire vise à protéger les intérêts du peuple congolais. Didi Manara, président du groupe parlementaire du FCC.
Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Le FCC est avec la population. Et vous allez voir comment les députés de l'Union Sacrée seront contre la population. C'est-à-dire, ils vont sauver le ministre. Nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive. Qui est cette taxe RAM qui est totalement illégale. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion et pourtant la motion a rempli toutes les conditions.
Du côté de l'Union Sacrée, les députés n'arrivent pas à s'accorder sur le sort qui devrait être réservé à Augustin Kibasa ainsi qu'à la taxe RAM. Convoqué lundi au fleuve Congo Hôtel par Christophe Mboso et Jean-Marc Kabound, la majorité des députés ont rejeté les propositions du président et du vice-président de l'Assemblée nationale, notamment celle de supprimer la perception de la taxe RAM pour les téléphones 2G et la maintenir pour d'autres types. Ils ont aussi refusé de protéger le ministre des Pétentic, Augustin Kibasa, renseigne notre source au sein de l'Union Sacrée.
Signalons que le ministre des Pétentic, Augustin Kibasa, sera ce mercredi devant la représentation nationale pour répondre aux questions et préoccupations des députés nationaux au sujet de la taxe RAM. Au cours de la même plénière de ce mercredi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, viendra aussi répondre à la question orale avec débat lui adressé sur la situation qui prévaut dans la province du Sankuru. Vous le savez, depuis hier mardi, Radio Kapi a commencé une série de reportages sur la stratégie de retrait progressif et responsable de la MONUSCO en RDC. Le 15 septembre dernier, le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, la mission onusienne en RDC, ont signé le plan de transition pour une sortie échelonnée de la mission. Ce document fixe la période de 2021 à 2024 et donne des indicateurs clairs sur le retrait de la MONUSCO de la RDC. Il contient 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent sa mise en œuvre. Aujourd'hui, Jean-Pierre Lali Coco décortique dans un premier temps les 7 premiers des 18 jalons arrêtés par les deux parties. Suivez.
Le premier des 18 jalons concerne la sécurité et protection des civils. Il s'agit donc de réduire sensiblement les menaces armées grâce à une approche globale en mettant fin à l'existence des groupes armés dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu à un niveau tel qu'ils ne peuvent plus causer des violences généralisées à la population civile. Le deuxième jalon, subsidiaire au premier, consiste à s'assurer de l'existence d'une plus grande capacité pour répondre rapidement aux menaces pour la protection et résoudre efficacement les conflits intercommunautaires et ce, grâce à une plus grande coopération entre les forces de sécurité de la RDC, la MONUSCO, les acteurs concernés. Le troisième jalon est relatif au désarmement et démobilisation. Le quatrième, c'est la contribution du PDDRCS à la réduction durable du nombre de groupes armés suivant l'horizon temporel des transitions. Le cinquième jalon concerne, lui, la poursuite de la mise en œuvre du cadre national définissant les principaux paramètres stratégiques, politiques, institutionnel et juridique pour le relèvement communautaire avec l'appui des organismes, fonds et programmes des Nations Unies en RDC.
Les jalons 6 et 7 ont trait respectivement à la capacité et à l'engagement concret du gouvernement et de la société civile, ainsi que d'autres acteurs non étatiques à prévenir, atténuer et résoudre les différends et à l'adoption et mise en œuvre d'une politique gouvernementale qui prend en compte les droits et besoins des réfugiés, des déplacés internes ainsi que les questions de genre. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, 19 entreprises pétrolières du Haut-Katanga sont dans les collimateurs de l'Inspection Générale des Finances. L'IGF a sollicité du ministre des Hydrocarbures le retrait temporaire des contrats de fourniture des produits pétroliers et la suspension des autorisations d'importation et de commercialisation de ces 19 sociétés. Le ministre des Hydrocarbures a accédé à cette demande. Il a écrit au secrétaire général aux Hydrocarbures pour exécuter cette décision. Il aurait réproché la contrebande et la fraude douanière qui fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. Dans une lettre adressée au ministre des Finances, la Fédération des entreprises du Congo du Haut-Katanga relève un certain nombre de faits et indique qu'il n'a jamais été question de la contrebande et sollicite un moratoire d'une année afin de permettre aux membres de régler les contentieux avec l'État congolais. Jean Gandou.
Lors de son dernier séjour à Lubumbashi, le ministre des Finances a indiqué que le trésor public a enregistré un grand manque à gagner du fait de certaines entreprises pétrolières accusées de contrebande et de fraude douanière. À ce sujet, un moratoire leur a été donné jusqu'au 20 octobre prochain pour qu'elles puissent régulariser cette situation, faute de quoi elles s'exposeront à des sanctions dont le retrait de leur agrément en tant qu'opérateur pétrolier. Les entreprises concernées déclarent pour leur part qu'il n'y a jamais eu de fraude ni de contrebande. Elles déplorent cependant que l'IGF n'ait pas mis à leur disposition son rapport pour qu'elles en connaissance. Dans une correspondance adressée le 9 octobre dernier au ministre de Finances, ces entreprises sollicitent un moratoire d'une année au minimum pour qu'elles puissent régler les contentieux qui les opposent au gouvernement conformément à la loi. Elles évoquent entre autres le non-respect par le gouvernement des engagements pris avec la profession pétrolière, notamment les paiements des pertes et autres manques à gagner à la suite du gel des prix. Entre-temps, sur le terrain, toutes les 19 entreprises pétrolières visées par l'IGF opèrent normalement. D'après une source proche de ces entreprises, aucune n'a jusque-là été notifiée d'une éventuelle suspension de ses activités. Toutes attendent la réponse à leur lettre adressée au ministre de Finances afin d'arrondir les angles sur ce qui les divise. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et on parle justice dans cette édition du journal. Le procès des experts de l'ONU tués au Kasaï, le renseignant Sonsten Kambidi et le prévenu Jean Bosco Mukanda ont été entendus ce mardi sur les contacts entre les deux et le partage d'informations autour de la mise à mort des Aïda Catalan et Michael Sharp. Au cours de cette audience, la cour militaire de l'ex-Kasaï occidental est également revenue sur la première vidéo du meurtre avec les renseignants cités dans cette affaire. François Kadima.
Sosten Kambidi a été interrogé sur ses contacts avec le prévenu Jean Bosco Mukanda autour du partage d'informations sur le meurtre de deux experts de l'ONU. Le journaliste a expliqué n'avoir pas eu de lui un message sur ce meurtre. Invité, Mukanda a indiqué avoir informé à travers le SMS plusieurs personnes sans reconnaître si Kambidi en faisait partie. Il avait plutôt obtenu la réaction par SMS toujours d'un autre journaliste de Kananga. Kambidi a plutôt expliqué avoir discuté avec Mukanda pendant que celui-ci était à Kinshasa quelques temps après. À cette audience, Sosten Kambidi et les trois autres renseignants ont été de nouveau confrontés autour de la première vidéo sur la mise à mort de Zaïda Catalan et Michael Sharp. Ben Israël Toumba a expliqué n'avoir pas obtenu la vidéo. Il a plutôt indiqué l'avoir visualisée à l'église à partir du téléphone de Roger Bouchabou. Mais ce dernier a continué à nier, indiquant n'avoir pas été avec Ben Israël Toumba. Maître Prosper Kamalou cite toujours le déprimé comme les personnes qui visualisaient la vidéo du meurtre, image qu'il avait demandé le jour suivant à Ben Israël Toumba avant de faire appel au journaliste Sosten Kambidi de Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
Notez que le journaliste Sosten Kambidi a bénéficié d'une liberté provisoire ce mardi. Son conseil l'avait sollicité, indiquant que son client cité comme renseignant est disposé à coopérer avec la justice. Autre nouvelle, face à la résurgence de la maladie à virus Ebola à Beni, le maire de la ville invite la population à accepter les acteurs de santé qui viennent pour arrêter la propagation de cette maladie. Dans son message adressé à la population, l'autorité urbaine appelle également au respect de mesures barrières, de même qu'à se faire vacciner immédiatement une fois que l'on a été en contact avec le malade confirmé d'Ebola. Les propos du commissaire supérieur principal Narcisse Mouteba Kachalé, recueillis par la cellule de communication de la mairie, sont choisis ici par André Kitting.
La ville de Beni n'étant pas à sa première expérience de vivre l'épidémie d'Ebola, je suis convaincu que chacun de nous saura remplir son devoir, celui de contribuer par tous les moyens afin de stopper immédiatement la propagation de cette maladie. Pour y arriver, chers habitants de la ville de Beni, je vous recommande ce qui suit. 1. Acceptons que les acteurs de la santé qui viennent vers vous fassent librement leur travail visant à sauver les vies de ceux qui ont été en contact avec les malades confirmés d'Ebola, sans ignorer que nous faisons aussi face à la pandémie du coronavirus. 2. Celui qui se reconnaît avoir été en contact avec les malades confirmés d'Ebola accepte de se faire vacciner le plus tôt possible et qu'il soit suivi pendant 21 jours.
On reste dans la ville de Beni. Une grande partie de cette ville connaîtra une pénurie momentanée d'eau potable de la régie des eaux à partir de ce mercredi 13 octobre. C'est le maire de la ville qui a annoncé cette nouvelle à la population à travers les médias. L'autorité urbaine justifie cette situation par le fait que les équipements électromécaniques de la régie des eaux ont été immergés par l'eau suite à la pluie qui s'est abattue sur la ville lundi dernier, ce qui a occasionné l'arrêt de l'usine. Toutefois, il rassure que les travaux de remise en état sont en cours. Le commissaire supérieur principal, Narcisse Kachalé-Moutéba, explique au micro de la cellule de communication de la mairie. Ces propos sont choisis par André Kiting.
Chère population de la ville de Beni, suite à la pluie qui s'est abattue ce lundi 11 octobre 2021, en amont de la rivière Toua, je vous informe que les équipements électromécaniques de la régie des eaux ont été immergés par l'eau. Ainsi, vu cette situation malheureuse, nous vous annonçons de ce fait un arrêt de fonctionnement de l'usine Toua. Par conséquent, une pénurie d'eau potable sera momentanément observée à partir du mercredi 13 octobre 2021 dans le quartier suivant. Ngongolio, Ntoni, Boïk, Kene Mabolio. En attendant les travaux de réparation en cours d'exécution, nous rassurons la population de la disponibilité de l'eau potable dans le quartier desservi par l'usine Kalongo qui est fonctionnelle, à savoir quartier Malepe, Butanuka, Benengule. Nous appelons la population au calme.
Et ici à Kinshasa, la régie des eaux informe ses abonnés de la partie sud-ouest de la ville que suite aux travaux d'installation d'un nouveau groupe moto pompe acquis sur financement du projet des 100 jours du chef de l'État, son usine de traitement d'eau de Lukaya sera en arrêt ce mercredi donc, à partir de 8 heures jusqu'à la fin des travaux. Par conséquent, une interruption de la fourniture d'eau sera observée dans les quartiers ci-après. Kimbundo, Sebo, Cité Pumbu, Cité Mamamobutu, Cité Verte, Dumez, Matadi Mayo, Matadi Kibala, Kambadia Dingi, Masangambila, Monkole, Mongafula, Commune et Ngafani. La régie des eaux prie ses abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ses désagréments liés à cette intervention. Elle rassure du rétablissement de la desserte dès la fin de travaux. Et puis, la pandémie de la COVID-19 a sérieusement impacté les secteurs touristiques dans le monde entier en général et en RDC en particulier. Cette thématique a aussi été abordée dans l'intervention de Maître Timothée Moukeng, l'un des panélistes à la première semaine congolaise du tourisme organisée à Kolwezi au Lualaba. Ce juriste spécialiste en tourisme pense qu'il est temps de diversifier le financement du tourisme compte tenu du poids qu'il peut avoir dans le produit intérieur brut de la RDC et provoquer d'autres incidences positives. On écoute Maître Timothée Moukeng qui revient sur les autres aspects de son intervention. Il a été joint par Alain Irung.
J'étais dans le panel qui a parlé du cadre légal et institutionnel du tourisme. J'ai parlé de la loi du 9 juillet 2018, portant principes fondamentaux du tourisme. J'ai parlé des avancées de la loi, par exemple, aujourd'hui, le partage des compétences entre le pouvoir central et les provinces sur la question du tourisme. J'ai parlé de l'organisation, de la réglementation sur les activités du tourisme, les professions, les transports touristiques et toutes les activités du tourisme, ce qui n'existait pas avant. J'ai parlé également du fonds de promotion du tourisme, j'ai parlé des facilités de visa, facilités d'accès au territoire et même les facilités de développement. Du côté des contraintes, le financement qui n'est pas diversifié et aussi j'ai abordé la problématique de la Covid qui a été un certain choc dans le secteur, mais pour cela qu'il faut aujourd'hui travailler à améliorer les lois, mais surtout à penser à un financement durable et innovant du tourisme.
Autre nouvelle, la route nationale numéro 6 dans son tronçon reliant le territoire de Massimanimba dans la province du Kwilu à celui de Fethi au Kwango se trouve actuellement dans un état d'impraticabilité très avancé, rendant ainsi très difficile l'évacuation de produits agricoles vers le centre de consommation. Cela à cause de plusieurs têtes d'érosion. L'administrateur du territoire de Massimanimba, Jean Bosco Mukubidi, qui s'est dit préoccupé, redoute la coupure totale de cette route dans les prochains jours. Il sollicite l'implication des gouverneurs de ces deux provinces ainsi que du gouvernement central afin de rendre cette route praticable et sauver le développement de ce coin. Il a été joint par Irène Nombouma.
Effectivement, la route qui mène de Massimanimba à la province du Kwango, cette route-là est vraiment impraticable. Il y a eu des érosions. Pourtant, cette route-là relie les deux provinces, le Kwilu et le Kwango. Et puis, il n'y a même pas une rivière qui sépare les deux provinces. Son importance, l'évacuation des produits agricoles et les produits manufacturés qui doivent entrer dans les villages. Alors, si la route est coupée, c'est-à-dire qu'il y aura une rue des produits agricoles dans les grands centres et même chose, les produits manufacturés dans les village. Et alors, ça influence l'économie de nos entités parce que les gens ne savent plus vendre leurs produits. J'avais déjà parlé à notre gouverneur de Kwilu, les gouverneurs de la province de Kwango qui peuvent nous écouter aussi et peuvent intervenir chacun dans sa province pour que cette route-là soit praticable. Surtout le gouvernement central, comme c'est une route nationale, ils peuvent aussi emboîter les pas. Donc si cette route-là n'est pas praticable, c'est un manque à gagner pour l'économie de nos deux provinces, surtout de nos deux territoires, Fethi et Massimanimba.
Actualité internationale.
Le sommet de la francophonie devrait avoir lieu à Djerba en novembre, mais lors d'une réunion du Conseil permanent de l'Organisation internationale de la francophonie ce mardi 12 octobre, les représentants de 88 États membres et associés ont convenu de repousser l'échéance à l'automne 2022. La décision précipitée par la situation politique en Tunisie doit encore être entérinée par les ministres, mais cela semble faire peu de doute.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal est le professeur Jean Cassois, chef de département de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa et au CNPP. On le reçoit en marge de la célébration de la journée de la santé mentale commémorée le 10 octobre de chaque année. Il s'entretient ici avec Michel Kifindangoy. Suivez.
Professeur Jean Cassois, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous faire aujourd'hui un état des lieux des CNPP qui est le plus grand hôpital psychiatrique en République démocratique du Congo?
Le CNPP, pour la petite histoire, accueilli en 73 par le président Mobutu et le CNPP a été construit au même moment que la cité de l'OIA. À cette époque-là, le CNPP était second centre psychiatrique en Afrique centrale, quatrième au monde. Aujourd'hui, c'est le seul centre neuropsychiatrique en Afrique centrale et le plus grand centre parmi les deux en Afrique en général, je veux dire. Lorsque le CNPP a été construit à ce moment-là, c'était l'hôtel 3 étoiles. Maintenant, c'est quel état? Vous allez le constater, c'est le délabrement. À cette époque-là, c'était aussi sous tutelle des présidences de la République. Chaque mois, le CNPP avait de l'argent, des subsides, des frais de fonctionnement. Aujourd'hui, il n'y a rien.
Aujourd'hui, le CNPP occupe quelle étendue et qu'est-ce qui y est construit?
D'abord, je voudrais rappeler à tout le monde qu'un centre psychiatrique, ça ne reste pas à l'intérieur d'une cité. On le construit à l'écart quelque part. Et ça représente presque une ville, une cité. Parce que les gens qui viennent là-bas malades, après on leur apprend à se réinsérer dans la société. Donc il faut de l'espace pour qu'ils puissent se promener. Deuxièmement, il faut l'environnement, les arbres et tout le reste. Parce que le cerveau s'est nourri de l'oxygène.
Vous avez environ combien de bâtiments déjà construits ici? Quels services occupent ces différents bâtiments?
Côté neurologie, vous avez le pavillon 1, le pavillon 2, ça c'est la neurologie. Côté psychiatrie. Vous avez provisoirement un pavillon pour les enfants. Il y a un pavillon ouvert pour les hommes, un pavillon ouvert pour les femmes, il y a un pavillon pour les gens qui sont drogués, il y a un pavillon pour les cas aigus psychiatriques. Il y a un long bâtiment où il y avait le réfectoire. Aujourd'hui, ce n'est plus fonctionnel. Et plus haut, il y a aussi un grand bâtiment où il y avait la bibliothèque et il y a un bâtiment où il y avait le service technique où on trouvait tout, la charpenterie, la menuiserie, la plomberie. Ce bâtiment existe. Et tout ça, c'est pour que les malades viennent travailler avec nous. Leur travail, là, c'est un traitement. On appelle ça ergothérapie. Et quand vous arrivez là-bas, vous devez circuler même en voiture, parce que vous êtes dans une autre cité. Les CNPP soignaient tout le monde du monde entier. Les Américains, les Canadiens, les Belges, les Français se faisaient soigner ici. Donc aujourd'hui, le CNPP n'est pas connu. À ce moment-là, jadis, par jour, on avait plus de 100 malades à consultation. Aujourd'hui, peut-être 20. Les familles n'amènent pas les malades. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire 100 mètres à Kinshasa sans rencontrer un malade mental déambulant.
Il y a aussi une préoccupation. On constate de plus en plus des cas de détournement de fonds. Est-ce que ça aussi, ce sont des problèmes mentaux qui peuvent avoir des solutions au niveau des CNPP?
Oui, c'est un trouble de comportement. Et la place est au CNPP. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Beaucoup de gens souffrent de troubles mentaux, surtout des détresses, des angoisses qui amènent à la tristesse, à la peur. La vie, vous savez, c'est le haut et le bas. Aller trop haut, c'est mauvais. Descendre trop bas, c'est mauvais. Vivre, c'est aussi souffrir et pleurer. Mais le tout, c'est de savoir gérer.
Quels sont les problèmes qui vous préoccupent le plus au niveau de CNPP?
Une bonne question. Première chose, le malade n'est pas bien pris en charge. Il manque des médicaments. Alors que jadis, tous les médicaments étaient sur place. Le malade manque à manger. Il n'a pas de nourriture. La famille doit se débrouiller. Il n'y a plus de cafétéria ni de restaurant pour préparer pour les malades. C'est la famille du malade, l'entourage qui doit se débrouiller. Les chambres maintenant, l'institution, c'est un délabrement. Il y a des érosions, il y a de l'eau de pluie qui coule partout. On vient couper les arbres, donc l'environnement aussi est détruit. Une grande érosion là-bas. D'ici peu, si on ne fait rien, ça va détruire le pavillon des enfants. D'ici peu, c'est à peu près 10 mètres du pavillon des enfants. Le personnel n'est plus pris en charge comme à l'époque. Oh, les outils sont des vieux outils. Quand vous allez voir notre radio, ce sont des vieux appareils de l'époque, d'ailleurs qui ne fonctionnent presque plus. On n'a pas de scanner, on n'a plus tout ce qui est d'actualité aujourd'hui, on n'en a pas.
Professeur, je vous remercie.
Fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.